grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse en direct ou en podcast. Vivons-nous une révolution inédite, un basculement sociétal, psychologique, jamais vu dans l'histoire de l'humanité, l'ère de l'hyper-narcissisme, de la dictature de l'ego, qui nous empêcherait de voir au-delà de notre nombril? Pourquoi la mise en scène et le discours permanent du moi-je sont-ils devenus aussi cruciaux dans nos vies? Comment expliquer cette égotripe généralisée? Est-ce seulement l'apanage des plus jeunes? Nous verrons ce matin quel est le rôle exact des réseaux sociaux, du développement personnel et de la psychologie positive dans la diffusion de cet idéal de l'hyper-moi dans toutes les couches de la société. Comment se libérer de cette prison qu'est la dérive narcissique, où la seule valeur qui compte à la bourse globale du moi, c'est moi-je. Comment redevenir soucieux des autres, de l'intérêt général, en mettant en sourdine un moment sa petite personne? D'ailleurs, est-ce encore possible à l'heure des flatteurs d'ego que sont Instagram, Facebook ou Snapchat? Le philosophe Mathias Roux nous apporte ce matin un éclairage sur la dictature de l'ego. C'est d'ailleurs le titre de son nouvel ouvrage. Avec nous également le psychanalyste Gérard Bonnet. Trouvez-vous que nous vivons sous une dictature de l'ego? Quels sont les exemples d'hyper-narcissisme qui vous frappent le plus? Comment y remédier? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Bien vous fasse. Bonjour Laurent Galsamer.
Bonjour.
Co-fondateur de l'hebdomadaire Le 1, vous remplacez cette semaine notre camarade Julien Bisson. Quoi de neuf à la une du 1 cette semaine?
Alors on s'intéresse à cette révolte des oubliés, les gilets jaunes, même si l'actualité les chasse un peu ce matin, parce qu'on revient vers le thème des inégalités. Pourquoi cette révolte? Pourquoi? Eh bien on plonge un petit peu, on ouvre le capot de la voiture et on plonge dans les impôts. Qu'est-ce qui se passe avec les impôts? Et on explique comment fonctionnent les impôts en France.
A tout à l'heure, Laurent Grelsamer. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter. Grand bien vous fasse. Ali Rébé.
Vit-on vraiment dans une dictature de l'ego? Sommes-nous tous devenus hyper narcissiques? Je vous propose un nouvel éclairage ce matin avec Mathias Roux et Gérard Bonnet. Bonjour Gérard Bonnet.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et vous publiez aux éditions In Press le narcissisme de l'amour de soi à l'amour de l'autre. Bonjour Mathias Roux.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de philosophie, normalien, et vous publiez chez Larousse la dictature de l'ego, en finir avec le narcissisme de masse. Alors c'est quoi exactement l'ego pour le philosophe et pour le psychanalyste Mathias Roux? Est-ce que moi égale je?
Non. Alors, pas exactement. Excusez-moi, je vais répondre en premier parce que le sens courant ou philosophique n'est pas le même que le sens psychanalytique. Non, moi, je lui donne pas un sens très très particulier. Le moi, ce que j'appelle le moi, c'est la façon dont chacun a tendance à se prendre pour objet, comme une sorte d'identité singulière qu'il aurait au fond de lui-même et qu'il aurait à manifester dans toutes les expressions de sa vie, dans toutes ses actions, pour être en accord avec lui-même et pour être heureux.
Et l'ego, voilà. C'est quoi pour le philosophe que vous êtes?
Bah c'est ça l'ego, c'est ça, c'est cette espèce de noyau substantiel de l'identité qu'on va chercher à exprimer, à mettre en avant.
Gérard Bonnet.
Oui, alors bien sûr, les notions analytiques ne sont pas les mêmes que les notions philosophiques, même si il y a pas mal de relais. Mais pour la psychanalyse, le ego veut dire je, hein. Et donc là, on fait une différence considérable, hein, puisque le narcissisme, c'est l'amour de l'image, de la représentation de soi, qui est indispensable quelque part pour se construire, alors que le jeu, d'ailleurs vous le dites très bien à la fin de votre livre, hein, le jeu, c'est le sujet, c'est-à-dire celui qui, depuis l'origine, parce qu'il a été reconnu et aimé par l'autre, peut se poser dans l'existence, pas forcément à partir de son image, mais à partir de son histoire, de tout ce qu'il a ressenti, et là, j'allais dire que l'image passe au second plan. Quand je parle en ce moment, surtout à la radio, je ne me regarde pas. J'essaie de sortir tout ce que je ressens au plus profond de moi-même. Donc nous, en psychanalyse, on fait vraiment la différence. D'ailleurs, vous citez un livre qui le met vraiment en valeur, hein, le « je » et le « moi ». Et je crois qu'en effet, le gros problème aujourd'hui, c'est que le « je » est écrasé par le « moi ». C'est-à-dire qu'il faut vraiment paraître au point d'oublier ce qu'on est et ce qu'on pense profondément, et surtout ce qu'on a d'original et d'unique. Voilà.
Quelle est la différence, Gérard Bonnet, entre le narcissisme et l'hyper-narcissisme? C'est un peu la même différence qui opposerait la gourmandise et la goinfrerie, pour le dire très vite. C'est quoi la différence? Expliquez-nous. Entre le narcissisme et l'hyper-narcissisme.
Alors, le narcissisme est indispensable. Hein. Et d'ailleurs, c'est une des découvertes de Freud. Il ne faut pas oublier qu'avant Freud, le narcissisme était une maladie. Hein. Les grands auteurs de l'époque, ils en font même une perversion. Et Freud dit, mais non, on est tous plus ou moins narcissiques. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on se construit, où on est obligé de trouver une certaine cohérence, une certaine unité aux yeux des autres. Bon. Alors, l'hypernarcissisme, c'est quand il y a une espèce de... D'ailleurs, Freud dit, toute la libido fait retour sur ce moi. C'est-à-dire, je n'ai de plaisir qu'à être moi. Et à paraître et à recevoir des autres une espèce de reconnaissance à outrance. Donc, c'est ça, l'hypernarcissisme. Et ce qui est terrible, c'est qu'en effet, Freud a mis le narcissisme, j'allais dire, à la portée de tous, mais que maintenant... on en fait quelque chose d'excessif.
Et oui, et Freud, alors là je parle sous votre contrôle, bien sûr, distingue le narcissisme primaire du narcissisme secondaire. Et c'est ça qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière, l'hyper-narcissisme.
Expliquez-nous, Gérard Bonnet, oui, alors... narcissisme primaire, narcissisme secondaire.
Alors c'est très important, hein. Le narcissisme primaire, c'est le narcissisme de l'enfant. D'ailleurs, dans son article sur le narcissisme, Freud dit quand on voit un bébé là heureux dans le bras de sa mère, c'est vraiment l'image parfaite du narcissisme parce qu'il est dans son petit monde. Il y est heureux parce que il est porté, entouré. Bon, là, pas de problème. Je dirais même que c'est indispensable. C'est une espèce de pierre première. Le narcissisme secondaire, c'est celui qui se met en place à partir du stade du miroir. Et alors, vous voyez, on a tellement insisté sur le stade du miroir.
À quel âge?
Vers 2 ans, surtout. Hein. Le tournant essentiel se fait vers 2 ans. Et là, l'enfant s'approprie cette image. C'est-à-dire, il dit ça, c'est moi. Mais le problème, c'est que il est pris au piège du miroir. Et s'il reste pris au piège du miroir, là, ça devient un narcissisme excessif, surtout aujourd'hui, où le visuel a tellement d'importance.
Mathias Roux, pour paraphraser Woody Allen, un hyper narcissique, c'est quelqu'un qui ne pense pas à moi.
Je sais pas, mais l'hyper narcissique, alors, en fait, il y a deux, donc on l'a bien dit, il y a deux manières d'envisager le narcissisme. Mais je pense que l'hyper narcissique, effectivement, c'est aussi quelqu'un qui est égocentrique, forcément. Il pense pas à moi au sens où, quand je lui dis quelque chose de moi, il n'analyse dans ce que je lui dis que ce qui peut faire écho à sa propre expérience et qui est le prétexte à parler de lui. Et ça, c'est très courant. Et de ce point de vue-là, on va en parler après, mais les réseaux sociaux n'arrangent rien à l'affaire à partir du moment où toute expérience de l'autre, je peux lui opposer ma propre expérience par le biais d'une image ou d'un post, etc.
Comment est né votre livre, Mathias Roux, La dictature de l'ego? Votre livre, c'est une charge argumentée, précise, hein, contre l'hypertrophie du moi qui contamine tous les pans de notre société. Mais j'ai envie de vous dire, rien de vraiment neuf. Dans les années 1970, Tom Wolfe, le grand Tom Wolfe, parlait déjà de la décennie de l'ego. Et puis, il existe de nombreux livres, hein, qui évoquent les pathologies du narcissisme.
Tout à fait, mais il y a deux. Alors, pour moi, il y a deux motifs qui m'ont conduit à écrire ce livre. Un motif assez politique d'abord. Parce que je trouve que le narcissisme est relayé par le développement personnel et que le développement personnel participe de cette entreprise de dépolitisation générale qui conduit d'ailleurs à des formes de repolitisation assez violentes qu'on est en train de vivre en ce moment, où en fait les gens sont en permanence renvoyés à leur responsabilité individuelle et donc à leur culpabilité, et complètement coupés de cette dimension collective des choses et donc politique. Et puis ensuite, il y a un motif plus personnel, c'est mon expérience de professeur en contact avec les jeunes générations. J'ai pu observer différentes classes d'âge, puisque d'année en année, j'ai à chaque fois des élèves d'une autre année de naissance, et j'ai pu observer comment la manière de parler d'eux-mêmes et de se mettre en avant, finalement, freinait l'accès à la connaissance et notamment à la réflexion philosophique. Et je montre d'ailleurs dans le livre comment narcissisme et relativisme des opinions se nourrissent l'un l'autre et réciproquement.
Qu'est-ce que vous appelez exactement la dictature de l'ego? C'est un terme fort, dictature. Selon le Robert, la dictature, c'est la concentration de tous les pouvoirs entre les mains d'un individu, d'une assemblée, d'un parti. Pourquoi parler de dictature de l'ego?
Je parle de dictature parce que d'abord, la dictature de l'ego permettait d'envisager le double sens du génitif. C'est-à-dire la dictature que les égos tyranniques font régner sur les autres en nous obligeant à nous intéresser à eux-mêmes, en nous prenant en otage de la mise en scène de leur vie, et en leur demandant en permanence des preuves qu'on les aime à travers des likes ou des approbations ou une écoute attentive de la moindre opinion sur Twitter, etc. Et puis ensuite, la dictature que cet égo exerce sur l'individu lui-même, incapable de rentrer dans cette posture du jeu et du sujet dont on parlera, le jeu de l'autonomie, et de s'ouvrir du coup à d'autres esprits Et les autres esprits, c'est ce qu'on appelle la culture, les grandes œuvres, les grandes pensées, les grands textes.
Alors, dès le début de votre livre, vous mettez à l'index, vous l'avez dit, hein, la culture psy, tous ces ouvrages de développement personnel, de psychologie positive, qui ont pour ambition de nous réaliser et qui sont pour vous en partie responsables du culte du moi. Vous écrivez sévèrement, hein, dans La dictature de l'ego, au lieu d'aider le regard de Narcisse à se détourner de son reflet à la surface, toute la littérature estampillée développement personnel ne fait que lui enfoncer la tête sous l'eau en renforçant les mécanismes qui ont mené là. Là, c'est évidemment la dictature de l'ego.
Oui, parce qu'il y a une sorte de demande en permanence d'introspection, c'est-à-dire tourner le regard vers vous-même. Et évidemment, mon discours est une charge parce qu'il fallait aussi donner un contrepoint un peu audible par rapport à cet océan littérature développement personnel. Et pour se faire entendre dans ce concert, il fallait un peu taper fort. Bon, et je ne veux pas nier d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'aide ponctuelle que cette littérature et votre émission, bien sûr, apporte aux auditeurs. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que cette dictature s'exerce dans la mesure où je prends l'image, on enfonce la tête sous l'eau. Je vais prendre un seul exemple qui va être très clair. Le livre très caricatural qui s'appelle « J'arrête de râler au bureau ». Où on explique aux gens que, en fait, si vous râlez au bureau, c'est que vous avez un problème avec vous-même. Et donc, on vous donne une méthode pour arrêter de râler au bureau. Voilà, c'est ça.
Et vous critiquez, Mathias Roux, tous ces ouvrages, ces auteurs qui nous disent « Vous vous sentez coupable, insuffisant, impuissant, vous vous sentez seul, vide, vous êtes insatisfait de votre vie. » Eh ben, c'est parce que vous ne pensez pas assez à vous.
Voilà, vous ne pratiquez pas assez, comme le dit un sociologue qui a travaillé sur ces questions, vous ne pratiquez pas assez votre intériorité. Voilà.
Gérard Bonnet, qu'est-ce que vous en pensez de ce que vient de nous dire Mathias Roux ?
Ah non, mais je suis assez d'accord, hein, parce que c'est vrai que le problème étant cette inflation, comme vous dites, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on profite des problèmes des gens pour les faire rentrer dans des rails où ils vont tout à fait satisfaire aux exigences du collectif. Donc tout à fait. Simplement, je pense que, comme vous le laissez entendre quand même, pour certaines personnes qui sont vraiment en difficulté, ça peut être un moyen de calmer le jeu, j'allais dire, c'est le cas de le dire. Hein. C'est-à-dire au moment où ils sont vraiment pas bien dans leur peau, ça peut permettre de passer des étapes. Nous, en tant qu'analystes, on dit le contraire, bien sûr. On dit, au lieu d'aller chercher des satisfactions comme ça, un peu rapides, il vaut mieux vous dire d'où vient cette insatisfaction. Qu'est-ce qui vous travaille en profondeur? Et c'est vrai que c'est pas commode de laisser revenir ces sources d'angoisse, qui quelquefois sont très lointaines, mais voilà, où on se laisse aller à la désubjectivation, c'est-à-dire à se laisser parler à partir de ce qu'on a au plus profond. Et là, on est loin du narcissisme. Hein. C'est exactement le contraire.
Le problème aujourd'hui au 21e siècle, c'est nous sommes tous dans une crise majeure de narcissisme à cause de l'auto-exploitation de nous-mêmes et des changements sociétaux. Et donc, je crois que ce qu'il faut dire à tout le monde, c'est que narcissique devienne non plus une faute, mais quelque chose de bénéfique, et qu'on puisse simplement dire aux gens, à cette jeune fille qui s'ouvre, à tous ces gens-là, mais tu as le droit d'être narcissique. Et le jour où ça ne sera plus une faute, je crois qu'on aura fait un pas extrêmement important.
Le philosophe Fabrice Midal, hein, dans Grand Mal vous fasse, hein, en février dernier. Mathias Roux, dans votre ouvrage, vous n'êtes pas tendre, hein, avec les ouvrages de Fabrice Midal. Foutez-vous la paix, sauvez votre peau, devenez narcissique. Pourquoi une telle charge ?
Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que Fabrice Midal, qui est un philosophe de formation, tord un peu les concepts pour les besoins de la cause et peut-être pour les besoins de sa publicité. Et on voit comment, en fait, aussi son discours, et là aussi, je pense qu'en tant qu'intellectuel, il a une responsabilité, son discours devrait justement dénouer les choses au lieu de les mélanger. En fait, là, le narcissisme dont il parle, en fait, c'est juste le fait de penser un peu plus à nous-mêmes. Mais là où je ne le suis pas, c'est que penser à nous-mêmes suppose aussi de penser au collectif et de pas couper. Ce que je veux dire, c'est qu'il participe de cette tentative de couper l'individu du collectif et de faire en sorte que chacun intériorise les sources de son malheur sans interroger les conditions de vie objectives que la société lui fait.
Bonjour Christine Lapelle-Edouel.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste à Psychologie Magazine. Est-ce que la psychologie positive, le développement personnel, des magazines comme le vôtre, hein, contribuent à une dérive narcissique ? Est-ce que plus on a dit aux gens « soyez vous-même parce que vous le valez bien », et est-ce que dans le même mouvement, la dictature du moi a grossi ?
Ben, je vais peut-être vous étonner, mais je vais aller un peu dans votre sens. C'est-à-dire que je pense... Alors d'abord, je voudrais saluer vos deux invités. Je connais bien Gérard Bonnet et j'apprécie beaucoup son travail. Et, d'ailleurs, nous travaillons souvent avec lui. Mais je crois que... Je reviens sur la différence qui a été faite entre le « je » et le « moi ». C'est sûr et certain absolument certain que les ouvrages de développement personnel ont une responsabilité dans ce détachement du collectif hein, et de la recherche d'interrogations politiques. Mais je pense que en ce qui concerne psychologie, puisqu'il y a une charge aussi à propos de Psychologie Magazine, je pense que le magazine n'est pas forcément dans une recherche et un soutien du moi, mais qu'il y a aussi, en tout cas dans la recherche du développement personnel et de certains ouvrages de développement personnel, une ouverture sur le jeu. Et ce que nous pouvons constater, c'est qu'il y a une vraie recherche, alors je pense particulièrement à tout ce qui concerne la spiritualité, qui est un domaine que n'est pas du tout abordé dans le livre dont vous parlez, ou très peu. La recherche de spiritualité n'est pas une recherche de l'ego, c'est une recherche plutôt de l'ouverture sur autre chose, quelque chose de plus grand. Donc je pense que là, on est dans l'inverse de la recherche de l'ego. Hein. Et je pense que les personnes qui cherchent des réponses dans les ouvrages du développement personnel sont plus à la recherche pour beaucoup de l'ouverture parce qu'ils se sentent à l'étroit dans leur moi et dans leur vie. Donc, psychologie ouvre, c'est vrai, deux portes, une sur le développement personnel, ça c'est certain et c'est historique dans l'histoire du magazine, mais aussi il y a une ouverture plus grande. En particulier à travers...
Christina Mathias Roux a envie de vous répondre. Christina Mathias Roux a envie de vous répondre.
Oui, d'abord, il n'y a pas véritablement une charge contre Psychologie Magazine, mais si on reprend cette question de la spiritualité, pourquoi dans ces cas-là ne pas aussi parler de philosophie? Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que vous utilisez la spiritualité parce qu'elle justement, elle permet cette porosité, elle entretient le même discours et on passe donc de développement personnel à spiritualité sans vraiment se rendre compte. Et moi, ce que je critique, ce n'est pas tant l'existence en tant que telle de la psychologie et du besoin de psychologie pour nos concitoyens, c'est la façon dont le discours psychologique absorbe tous les autres, à commencer par celui de la spiritualité et de la philosophie avec Fabrice Midal. C'est ça, pour moi, le vrai problème.
Réponse courte, Christina Pelé-Noël.
Une réponse courte, oui, mais je crois que c'est un petit peu caricatural quand même. Hein. Je pense que le travail que nous faisons n'est pas aussi réducteur que ça. Mmh. Et je pense que réellement, la recherche de la spiritualité ne soutient pas un refus du politique. Et d'ailleurs, Psychologie fait régulièrement des interviews d'auteurs importants qui vont dans ce sens. Donc, je peux pas accepter la globalité de votre critique. En revanche, je l'entends sur le thème du développement personnel.
Merci beaucoup, Christina Pelé-Douel, journaliste à Psychologie Magazine. Gérard Bonnet.
Oui, moi, je voulais simplement ajouter que, au moins dans votre magazine, il y a une très grande diversité. Hein. Même si, en effet, il y a une pente actuelle vers les théories, voilà. Mais ce qui me frappe, c'est que vous passez vraiment un peu sur tous les sujets et que ça ouvre les gens à des pistes qu'ils n'auraient vraiment pas à l'esprit.
Le regard de Laurent Grelsamer de l'hebdomadaire Le 1.
Alors, non, c'est une interrogation que j'aimerais bien que vos invités, Ali, puissent nous répondre. Bon, j'ai plus un regard d'historien. On dit beaucoup que dans nos sociétés, on abandonne le collectif pour aller vers l'individu. Et il y a un grand psychanalyste, je crois, américain, Christopher Lasch, qui a écrit sur le narcissisme dans les années 70-1980.
La culture du narcissisme.
Voilà. Ouais. Et j'aimerais que vous nous expliquiez à partir de quand le narcissisme est devenu à ce point obsédant dans nos sociétés modernes.
Mathias Roux.
Alors justement, c'est l'objet de mon livre, c'est l'objet d'un chapitre de mon livre qui s'appelle Un prophète. Justement, je parle de Christopher Lasch et de la culture du narcissisme écrit en 79, où Lasch montre bien qu'en fait, à un moment donné, le discours qui va entraîner ce repli sur l'individu, il vient dans les années 70 déjà comme étant un moyen d'abord de donner du sens à la perte de sens que vivent les individus. C'est-à-dire qu'on arrive on commence à arriver dans un épuisement, en fait, de la société de consommation, déjà à l'époque. Et il faut trouver d'autres repères. Et en plus, ça, c'est conjugué avec de nouvelles techniques de management. Puisque justement, pour rendre les individus dociles et flexibles, rien de mieux, justement, que de les renvoyer à eux-mêmes et pour les impliquer d'une autre manière.
Allez, n'hésitez pas à réagir au 01 45 24 7000 sur l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la préparation de cette émission, Théo Denmat et Antoine Vandeville, avec l'aide de Laura Laplot, à la réalisation, Stéphanie Texier.
Je l'ai trouvé au petit matin, tout tenu dans passer devant la cheminée, pas besoin de nous faire un dessin. De battre mon cœur s'est arrêté sur le lit, j'ai jeté mon fouet. Tout contre elle, je me suis penché et sa beauté m'a rendu muet. Fatigué, j'ai la gueule de bois, toute la nuit j'avais aidé mon père. Dans le feu, j'ai remis du bois, dans la cheminée, y avait pas son père. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Je prends la fille dans mes bras, elle me dit mais non Balthazar, ne fais donc pas le fier à bras, je suis tombé là par hasard. Toute la nuit j'avais fouetté à tour de bras les gens méchants. La nuit, elle avait donné des cadeaux à tous les enfants. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie-Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Descendue chez moi par erreur, elle était là dans mes souliers. Et comme je ne pouvais prendre son cœur, je l'ai remis sur le palier. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, et elle m'a dit d'une voix très celle, bye bye au hasard Balthazar. C'était la fille du Père Noël, j'étais le fils du Père Fouettard, elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean Balthazar.
Jacques Dutronc.
Pour être heureux, vivons cachés, ça c'était avant.
Grand bien vous fasse.
Maintenant, soyons visibles et faisons envie. Je suis vu, donc je suis. Tu me regardes, donc j'existe.
Sur France Inter.
10h29 et on se demande ce matin si nous vivons une dictature de l'ego. Sommes-nous tous devenus hyper narcissiques? Et pour nous éclairer, le philosophe Mathias Roux et le psychanalyste très bavard hors antenne Gérard Bonnet. Mathias Roux, on assiste donc à une multiplication des nouveaux narcisses, des narcisses 2.0 comme vous les appelez dans votre ouvrage, très visibles car ils mettent en scène leur existence via les réseaux sociaux. Et ce qui est frappant pour vous avec ces nouveaux narcisses, vous le dites dans votre ouvrage La dictature de l'ego, c'est qu'une expérience ne vaut d'être vécue que s'il est possible de la mettre en scène, de la représenter et d'en informer ses amis, amis entre guillemets, par un post. Je clique, donc j'existe, pour paraphraser Descartes et son « je pense, donc je suis ».
Oui, parce que ce que je dis, c'est que je ne critique pas les réseaux sociaux en tant que tels, et je tiens à être très clair là-dessus, j'ai pas un espèce de discours technophobe par principe. C'est que je dis que les réseaux sociaux sont une fabuleuse caisse de résonance à nos pentes narcissiques que nous avons évidemment tous. Et le problème, c'est qu'on se demande après si nous vivons les choses pour les vivre ou est-ce que nous vivons les choses ensuite pour en faire une image et un récit publiable sur nos murs Facebook ou Instagram, etc. Et donc, on a l'impression que les gens perdent en liberté et en autonomie de choix puisqu'ils se soumettent par avance au regard de l'autre et à l'image qu'ils souhaitent donner d'eux-mêmes.
C'est que la réalité ne vaut la peine d'être vécue, mais qu'à la condition que cette réalité permette de se regarder.
Oui, je suis frappé parfois de gens qui, lorsqu'ils ont vont au théâtre ou une exposition, se prennent en photo et le mettent sur un réseau social, pour bien montrer qu'ils ont eu une consommation culturelle, qu'ils prennent soin de leur... Vous voyez ? Or, je sais pas, quand on est en rapport direct avec les œuvres et les choses, on n'a pas immédiatement besoin de le faire savoir à la terre entière.
Alors, le philosophe et psychologue Carlo Strenger affirme que nous recherchons tous une cotation à la bourse globale du mois, et que cette bourse décide de notre célébrité, de notre valeur, de notre obscurité, de notre insignifiance. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, tout à fait. Et justement, pour rebondir sur ce que je disais, moi, ce qui me frappe, c'est que justement, ça bloque l'accès à la culture en général. C'est-à-dire que ce rapport à la culture, paradoxalement, bloque l'accès à la culture. Pourquoi ? Parce que la culture, c'est justement ce qui me rend modeste. En m'ouvrant à des œuvres, je m'ouvre à d'autres esprits. Et donc, je prends conscience que mes petites vicissitudes ont déjà été vécues depuis la nuit des temps, mais que d'autres en ont fait des œuvres d'art ou des œuvres de pensée.
Gérard Bonnet, vous la comprenez, cette peur de l'insignifiance qui nous pousse à nous mettre en scène pour exister de façon hyper narcissique ?
C'est-à-dire qu'en fait, un élément considérable aujourd'hui, c'est la dimension du visuel. Enfin, hein, on ne se rend pas compte que nous sommes dans l'image du matin au soir. Et donc, à partir du moment où il y a une inflation de l'image, on est comme absorbé. C'est la fascination de Narcisse, justement. Hein, il est mort de ça. Il est mort de vouloir se limiter à son image, alors que nous ne sommes pas que des images. Hein. Puisqu'on parlait de notre ego au sens narcissique, c'est notre façon de vivre, notre façon d'être, notre façon de penser. C'est tout ça qui nous constitue comme être personnel. L'image n'est qu'un aspect, et un aspect très superficiel.
On pourra parler du tatouage, peut-être.
Voilà, après. Exactement. Mais ce qui me frappe, c'est que, par exemple, je vais prendre certains artistes qui ne sont pas forcément des beautés, mais qui arrivent à s'imposer, malgré tout, par leur talent, justement. Oui. Et le talent n'a rien à voir avec l'image. Hein.
Il y a une page formidable, je trouve, sur les selfies au tout début. On est rentré dans l'ère du moi, du je, J-E. Le selfie, finalement, est-ce que c'est pas l'autobiographie de demain ?
Et même plus que ça, c'est une idéologie, je crois. C'est-à-dire que c'est l'individualisme roi multiplié par la technologie et une forme d'exhibitionnisme qu'on a pu voir, par exemple, dans la télé-réalité. Mais au début, on critiquait beaucoup la télé-réalité. On se moquait des candidats qui voulaient être filmés 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, on est tous des candidats de télé-réalité dans notre téléphone.
Frédéric Becbédé dans la Grande Librairie en janvier dernier. Alors, jeunes ou moins jeunes, nous sommes de plus en plus des adeptes des selfies. Est-ce que l'invention des selfies, c'est un signe de notre hyper-narcissisme, ou est-ce que c'est parce que nous sommes devenus hyper-narcissiques que le selfie connaît un tel succès, Mathias Roux ?
Ah bah les deux, mon général. C'est-à-dire que les deux s'entretiennent eux-mêmes. Mais je voudrais juste revenir sur ce qu'il dit, parce que c'est très intéressant. Croire que le selfie peut remplacer la biographie, ou serait la biographie d'aujourd'hui, c'est très intéressant, parce qu'au contraire, une véritable biographie d'un auteur suppose un travail sur soi-même. Et je renvoie notamment à la notion de mentir vrai d'Aragon, qui disait que dans une biographie, il y a un travail aussi de reconstitution en partie légendaire de sa propre vie. Or, le selfie fige une image et prétend donner la vérité à l'instant T.
Bonjour Kenza.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Êtes-vous hyper narcissique, vous ?
C'est pas impossible. Je sais que je suis là pour témoigner de mon utilisation raisonnée des réseaux sociaux, mais ça veut pas dire que je suis pas narcissique, je tiens à dire.
Qu'est-ce que vous pensez, justement, de l'usage des réseaux sociaux dans la mise en scène de soi ?
Alors, j'ai écouté le discours de vos invités, et je tiens à dire que, selon mon expérience, le narcissisme utilise les réseaux sociaux. C'est pas les réseaux sociaux qui sont la marque du narcissisme. C'est un peu différent. On voit bien que, enfin, moi je viens d'un pays, par exemple, où les gens dépensent des millions d'euros pour inviter les gens qui sont importants au mariage de leurs enfants et qui sont capables de passer des heures à se montrer pour exprimer leur bien-être et pour montrer qu'ils vont bien, est-ce que ça, c'est pas aussi du narcissisme ? Donc,
Mathias
à l'échelle locale, à l'échelle plus locale. Donc, je pense que les réseaux sociaux, c'est juste la marque d'une uniformisation et d'une mondialisation du comportement de la personne, de l'individu.
Mathias Roux.
Alors, je suis en partie d'accord, mais il faut pas confondre le besoin de reconnaissance sociale qui a toujours existé et qui nécessite qu'on paraisse dans cet espace social, et justement s'afficher à côté de quelqu'un connu, c'est gagner en capital symbolique, et cette vogue de narcissisme. Je pense me préserver du narcissisme, mais ça me ferait plaisir d'apparaître à côté de quelqu'un connu. Il faut pas le nier, je veux dire.
Merci beaucoup Kenza d'avoir témoigné ce matin. Alors Mathias Roux, les nouveaux narcisses, les narcisses 2.0, aiment partager leurs avis de façon franche et directe. On a l'impression que la singularité est devenue une valeur cardinale et que les réseaux sociaux ont bien évidemment favorisé cet épanchement public de ces opinions primaires ou raffinées. Toutes les opinions se valent.
Oui, et surtout...
Vous faites un lien entre relativisme et hyper-narcissisme dans votre livre.
Et l'idée, c'est que l'opinion, mon opinion, a une valeur dans la mesure où vraie ou fausse, peu importe, elle m'exprime, je m'exprime à travers mon opinion. Et l'idée, c'est que moins il y a de filtres, plus cette opinion reflète ce que je suis. Et d'ailleurs, j'en parle aussi dans le livre, mais monsieur pourra en parler... Le contre-coup et la conséquence de ça, c'est la dévalorisation d'anciennes valeurs comme la pudeur, la réserve, la retenue. Aujourd'hui, ne pas s'exprimer ou ne pas avoir un avis, c'est suspect.
Gérard Bonnet, c'est suspect ?
Oui, absolument. Enfin, là je vous rejoins. Hein. J'ai fait des travaux sur l'exhibitionnisme, ça a été ma thèse. Donc, je connais bien ce phénomène depuis des années. Hein. Vous parlez de ceux qui ont pensé ça là, il y a longtemps. Il y a 30 ans, j'ai fait ma thèse sur l'exhibitionnisme parce que je crois que c'est un des problèmes numéro un. Mais il ne faut pas oublier quand même, et c'est la grosse difficulté, c'est qu'on vit dans un monde tellement écrasant, enfin, où pour exister... on doit, j'allais dire, jouer des coudes. Hein. Je viens de faire la route en métro, là où on est écrasés les uns sur les autres. Comment voulez-vous vous affirmer, sinon en étant un peu original, en sortant des choses que les autres ne disent pas? Donc il y a aussi cette pression de la masse aujourd'hui dont il faut prendre conscience. Alors, c'est pas pour excuser la chose, hein. Vous avez raison de dire qu'il faut s'en méfier, mais je crois que pour beaucoup de gens, cet hyper-narcissisme est une façon de survivre. Non, j'avais raconté dans un livre sur la tyrannie du paraître l'histoire d'une jeune femme qui arrivait de sa province, qui se retrouve à Paris avec ses petites habitudes, mais complètement perdue. Et elle se disait, alors justement, elle est allée voir des copines pour dire comment je dois m'habiller, comment je dois parler, comment je dois m'adresser aux autres pour pouvoir exister. Parce que autant avant, j'étais reconnu par mon milieu d'origine. J'existais parce que les copines depuis mon enfance avec qui j'étais, j'avais pas besoin de la ramener, comme on dit. Maintenant, si je la ramène pas, je n'existe pas.
Bonjour Michel Schneider.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes psychanalyste, l'auteur de Big Mother, et vous avez publié dans le dernier JDD une tribune sur la fronde des Gilets jaunes, et vous vous demandez si on assiste ces dernières semaines à une bataille de narcissisme. Vous mettez en parallèle, par exemple, le président Macron, qui vit mal, visiblement, d'être détesté par une majorité des Français, vous l'écrivez, et de l'autre, une figure des Gilets jaunes, Éric Drouet, qui se paie sa minute de célébrité sur BFM TV, en invitant à envahir le palais de l'Élysée. Et vous écrivez, toute la vie politique est aujourd'hui mise au service du narcissisme des dirigeants et des dirigés.
Mais c'est ce qui apparaît quand on voit les images et qu'on entend les propos des Gilets jaunes, c'est effectivement, on n'entend pas prononcer le mot d'intérêt général, on n'entend pas prononcer le nom de France, le nom de République, on entend plutôt des gens dire « moi je, moi je, moi je » et passer leur temps dans les manifestations ou supposait-elle, parce qu'une manifestation, pour moi, c'est un cortège, des revendications, un encadrement, des mots d'ordre et un but. Là, on a eu des groupes, y compris samedi dernier, des groupes qui se promenaient dans Paris, peu nombreux, et qui, à chaque fois, n'articulaient aucun slogan, aucune revendication. C'est toute la différence entre mai 68 hein, et 2018. Mai 68, c'était une fête pour changer la vie de tous. Hein. Aujourd'hui, on est effectivement dans une accumulation de selfies plutôt tristes, où des gens se font photographier devant des voitures en feu, parce que ils sont menacés d'invisibilité sociale. Hein. Le gilet jaune, c'est un symbole qui vous permet d'être vu avant tout. Alors quand on entend les gilets jaunes répéter à longueur de phrase qu'ils veulent être entendus, je me demande s'ils ne veulent pas d'abord et surtout être vus par les caméras de télévision, vus sur les réseaux sociaux, et ceci aboutit effectivement à un narcissisme qui n'est pas le bon narcissisme. Qui Mathias est nécessaire, Roux. Le bon narcissisme, bien sûr.
Mathias Roux.
Non, je m'inscris totalement en faux, parce que justement, il y a quelques têtes qui dépassent. Forcément, dans un mouvement, il y a des gens qui se poussent du coude. Mais je peux vous donner un exemple complètement contraire. L'un des leaders des Gilets jaunes, dont j'ai oublié le nom, justement, n'apparaît pas en public et utilise Facebook, justement, d'une façon très intéressante. C'est-à-dire que, uniquement comme un moyen, il fait des Facebook Live pour poser des questions et organiser la lutte. Mais il n'apparaît jamais, justement, médiatiquement. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il ne veut pas avoir cet effet du leadership.
Merci beaucoup, Michel Schneider, hein, je renvoie à votre tribune dans le JDD, très éclairante et qui nourrit la réflexion. Merci Michel Schneider. Laurent Grelsamer, cette semaine à la une du 1, bah vous revenez justement sur la révolte des oubliés, la révolte des gilets jaunes. Hein.
Oui, exactement. Et je reprends un peu le fil de ce que disait en partie Michel Schneider, cher Ali. Si ce mouvement s'est drapé dans le jaune, c'est pour être vu de tous. C'est le rêve de Narcisse. C'est le coup de génie des gilets jaunes, cette surveste en synthétique imposée par la sécurité routière en 2008. Comment mieux se signaler à l'attention de tous ? Coucou, je suis là, ne m'écrasez pas, je suis fragile. C'est la vocation du gilet fluorescent, se faire voir de jour comme de nuit. C'est un coup de com' fabuleux. Rarement des manifestants n'ont été aussi visibles, il fallait bien ça pour sortir ces oubliés de l'ombre. Dans le 1, la romancière Irène Frein prend l'affaire par un autre bout dans le récit qu'elle fait. Elle raconte son enfance d'oubliée. « J'avais 6 ans, écrit-elle. On n'avait pas la télé. Mon univers se résumait à notre petit 2 pièces blotti au fond d'une cour. Une seule chose me tracassait. Mes amis d'école ne venaient jamais jouer chez moi. Mes parents ne voulaient pas. S'ils refusaient que j'invite mes copines à la maison, c'était qu'ils jugeaient qu'on n'était pas à la hauteur. » Pas des gens bien, puisqu'on n'avait pas de bien. C'était même le contraire. On avait du mal, conclut-elle. Du mal à boucler les fins de mois.
Au fond, Laurent Grelsamer, que nous disent ces oubliés et que révèlent-ils de la France ?
Ils veulent du respect, de la considération. En gros, ils aimeraient être à leur aise pour voir rêver et jouer les narcisses. Dans son édito, chez nous, dans le 1, Éric Fotorino l'écrit « Ce que nous pouvons comprendre, c'est qu'on n'avait rien compris. Faute, qui sait, d'avoir voulu entendre les inégalités fiscales cachent les inégalités tout court. » Car il faut le reconnaître, personne ne les avait vus venir, ces gilets jaunes. Ils viennent d'une France que nous connaissons de moins en moins. Le démographe Hervé Lebras nous explique qu'il a collecté le nombre de gilets jaunes dans chaque département et qu'il les a mis en rapport avec la population locale. Résultat, il en sort une carte de France saisissante. Pas celle des grandes voies de circulation, des autoroutes, des grands hôpitaux et des grandes universités, non. C'est une France dépeuplée, nous explique-t-il. Une France du vide qui apparaît. Elle part des Ardennes pour descendre en zigzag vers la Nièvre, puis en direction des Pyrénées. Hervé Lebras identifie 2 populations concernées. Celle qui, pour accéder au moindre commerce, à la moindre pharmacie, doit prendre sa voiture et rouler au moins pendant 15 minutes. Et puis celle qui habite dans le périurbain, contrainte d'avoir elle aussi 1 ou 2 voitures par famille pour aller travailler. C'est la voiture qui sert de trait d'union aux gilets jaunes, explique notre démographe. Oui, la bagnole qui symbolisait autrefois la liberté et qui est devenue le boulet des narcisses contemporains.
Merci beaucoup Laurent Grelsamer. Inégalité, la révolte des oubliés, c'est le sujet de l'hebdomadaire Le 1 cette semaine, disponible en kiosque et en librairie. Allez, on continue à se demander si nous vivons sous une dictature de l'ego. 01 45 24 7000. Thank you. Hubert Lenoir interprété Recommencer.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h47, vivons-nous une dictature de l'ego? Sommes-nous tous devenus hyper narcissiques? Élément de réponse avec le philosophe Mathias Roux et le psychanalyste Gérard Bonnet. Alors il y a une question que se posent pas mal de parents ou de grands-parents. Est-ce que ce phénomène de dérive narcissique, eh bien, est-ce que ça touche surtout les millennials, hein, ceux qui sont nés avec la révolution numérique des années 2000, Mathias Roux?
J'ai pas l'impression, en tout cas ils sont en train de convertir les plus âgés. puisque d'ailleurs vous parliez des gilets jaunes, je lisais que, et si ça marche aussi bien, c'est que beaucoup de gilets jaunes ont des comptes Facebook. Mmh. Alors qu'ils sont assez âgés, une moyenne d'âge 45 ans.
Allez, je vous propose d'écouter des adolescents qui utilisent les réseaux de façon effrénée. Ils y postent quotidiennement des photos d'eux-mêmes. Notre grand reporter Antoine Lee les a écoutés, portable à la main.
Moi je suis sur Snapchat, Instagram, Facebook.
Quand tu mets des photos de toi, c'est dans quel contexte?
Contexte à être connu, comme les stars.
Ah, t'as envie d'être une star, toi?
Ouais, voilà.
Tu te trouves beau?
Ouais. Quand je fais du sport, de la muscule.
La musculation?
Les pectoraux, tout ça, les abdos.
Et ça, tu le montres à tout le monde?
C'est surtout les belles filles.
T'as envie d'être aimé?
Un peu, quand même.
Tes parents, ils savent que tu fais ça ou pas?
Ouais. Ils sont abonnés, hein, carrément.
Et ils disent rien?
Non, ils disent rien.
Bah là, c'est des photos de moi. Dans notre vie quotidienne, on met un peu tout ce qu'on fait, quoi.
Est-ce que c'est pas du narcissisme?
Oui, sûrement. Par exemple, là, elle a posté sa photo. Bah, après, les gens ils vont lui dire « Ouais, t'es belle, t'es moche » ou des trucs comme ça, genre, je sais pas.
Ils disent plutôt que t'es belle ou que t'es moche?
Que je suis belle.
Et qu'est-ce que ça te fait?
Ça nous donne confiance en nous, quoi. Qu'on a de l'intérêt, en fait.
Et ça, c'est important, c'est ce que tu cherches?
Bah oui, quand même, avoir confiance en moi. Ça nous donne un peu d'importance.
Elle est un peu trafiquée, la photo, non? Elle est embellie? Mais on est d'accord, elle est un peu trafiquée, la photo.
Oui, bah oui. Pour donner une bonne image, on va dire.
Mais est-ce que c'est pas donner une fausse image de soi?
Enfin, je mets pas des photos qui ne sont pas les miennes.
Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de mettre ces photos?
C'est pour montrer qu'on existe.
Bah ouais, des fois ça fait plaisir hein, de savoir que les gens ils voient nos photos. Ils disent ouais, t'es belle, t'es mignonne. Genre après, ça fait grave plaisir.
C'est flatteur. Ouais. T'es content, enfin, tu dis qu'il y a quelqu'un qui nous trouve beau dans le monde, quoi.
Et toi, quel type de photos tu mets?
Oui, des photos assez bien habillées, bien classe, on va dire. Qu'on se démarque des autres photos, en fait. Qu'on a un petit truc en plus. Un tout petit truc, un truc qui va attirer l'œil. C'est un cercle infernal, en fait. Les réseaux sociaux, dès que tu tombes dedans, c'est fini. Tu as envie de te dire, oh, il y a telle personne qui a vu ça. Combien de personnes qui ont vu ça? Oh, tiens, je vais remettre un autre truc pour que les personnes... Oh, tiens. Et que j'ai autant de personnes qui me suivent seulement pour regarder des photos ou autre chose. Ça fait plaisir.
Est-ce que c'est une façon de confirmer que t'es beau, désirable?
Ouais, on va se mentir, ouais.
Est-ce que tu te trouves beau sur les photos?
Je suis mignon, quoi. Je sais, je suis mignon. Je sais très bien, je suis mignon.
Reportage signé Antoine Lee qui sait parler aux adolescents. Commentaire autour de la table. Tiens, Noam, tu es stagiaire dans Grand Mets Vous Fasse cette semaine, stagiaire de 3e. Ça te parle, ce qui vient d'être dit? Ou ça te paraît totalement abscon?
Ouais, d'un côté, c'est pas tout le monde qui est comme ça. Faut pas dire que ceux qui parlent, on est tous comme ça. Il y a des gens, ouais, qui, on va pas dire qu'ils sont, comme ils sont un peu extérieurs ou pas au monde, mais en gros, ils veulent se faire montrer pour qu'après, bah.
Et toi, quel rapport tu entretiens justement avec les réseaux sociaux, la mise en scène de toi-même sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook?
J'y suis sur les réseaux sociaux, mais je poste presque rien, jamais.
Ouais. Tiens, Mathias Roux, vous êtes professeur hein, dans le secondaire. Ce culte du moi chez les millennials, hein, ceux qui sont nés dans les années 2000, ça ne s'arrête pas aux réseaux sociaux. Hein. Ça se traduit comment en classe?
Ah oui. Alors en classe, ce qui est intéressant, c'est que ça se traduit par le fait de vouloir s'exprimer. C'est-à-dire que, alors, il y a une expérience du professeur de philosophie en début d'année. Quand on explique un peu ce que va être l'année de philosophie, les élèves nous disent au départ qu'on va faire des débats. Des débats pour s'exprimer. Et l'idée étant que chacun puisse, en fait, c'est un groupe de parole, etc. Mais quand on leur apprend qu'en fait, on va faire une démarche collective pour essayer de s'approcher vers quelque chose qu'on appelle la vérité, ou en tout cas une forme d'objectivité, là, au début, ça coince. Parce que ça veut dire qu'on va être obligé de respecter des normes de raisonnement, des normes du vrai, etc. Et ça montre que ces nouvelles générations ont un rapport avec la vérité très biaisés en réalité. C'est pas ce qui les intéresse. C'est pas d'essayer de comprendre le monde ou de s'interroger. Ce qui les intéresse, c'est de parler d'eux-mêmes.
Ce qui compte, c'est d'exprimer sa vérité.
Exactement.
Et rechercher la vérité, bah, ça implique de renoncer à une part de soi-même, de garer son ego sur le bas-côté.
Voilà. Hein. Alors que ce qu'ils veulent exprimer, c'est leur ressenti.
Et pour vous, le relativisme encourage le narcissisme. Vous écrivez que le relativisme et le narcissisme cheminent comme de vieux compères. Je vous cite, narcissisme et relativisme sont bien les deux mamelles dont s'écoule le lait de l'ignorance satisfaite d'elle-même, de la bêtise infatuée, de l'inculture revendiquée.
Oui, parce que quand je me mets en recherche de vérité, je suis obligé de sortir de moi-même, de me décentrer. C'est ce qu'on appelle la recherche d'objectivité. Et voilà, donc cet effort-là nécessite une forme d'oubli de soi et de modestie.
Mais Gérard Bonnet.
Oui, alors, là encore, je ramène à des notions qui nous sont plus familières comme analystes. C'est que pour nous, ces notions-là, c'est-à-dire la vérité, la beauté, l'amour, ce sont des idéaux. Les idéaux, personne ne les possède. Ce sont des perspectives. C'est-à-dire qu'au fond, qu'on cherche la beauté, qu'on cherche la vérité, mais personne ne peut dire « j'ai la vérité » ou « je suis la vérité », sauf en religion. Hein ? Donc je crois que c'est très important aussi de rappeler aux personnes que nous sommes tous habités par des aspirations qui nous viennent du plus profond de nous-mêmes et qu'on ne doit jamais se les attribuer. C'est-à-dire qu'au fond, la jeune fille qui dit « je suis content », on dit « je suis belle », c'est bien, c'est passager, c'est vraiment évanescent, mais qu'elle ne croit pas que la beauté, c'est ça. Vous voyez ?
Mathias Roux, en lisant votre ouvrage, on se dit « c'est fichu, hein ». Qu'il est quasiment impossible de lutter contre cette dictature de l'ego. Quoique vous plaidez quand même pour un développement impersonnel. Expliquez-nous ce que c'est.
Non, en fait, c'est une manière un peu... c'est un clin d'œil, hein, pour reprendre les codes, d'en appeler à la culture et au savoir, en fait. Parce que la dévalorisation du savoir et de notre culture va de pair avec cette concentration des gens sur eux-mêmes. Et aussi avec leur retour de la politique. Bref, je plaide pour tout ce qui permet à l'individu d'accomplir sa part d'autonomie, mais pour ça, il faut sortir de soi.
Et vous citez Montaigne, « Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition ».
Oui, c'est-à-dire que, justement, je peux pratiquer l'introspection, mais pour retrouver en moi, finalement, des problématiques humaines qui sont universelles. Et c'est là que je m'ouvre à la culture.
Et les derniers mots de votre ouvrage, c'est « Ose le savoir et le courage de te servir de ton entendement ».
C'est la fameuse devise des Lumières, chère à Kant.
Gérard Bonnet, comment on guérit de cette dérive hyper-narcissique ?
C'est pas commode parce que, en ce qui concerne, comme analyste, on reçoit plutôt souvent des gens qui n'arrivent pas à être narcissiques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, je peux me dire que la plupart des patients que j'ai eus ne sont pas sur les réseaux sociaux, etc. C'est plutôt des gens qui cherchent comment trouver, comment exister, quoi. Hein, donc, j'allais dire, c'est plus des malades du narcissisme. Mais je pense quand même que, en étant attentif à cet écrasement du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire en apprenant aux gens que ce n'est pas parce que le monde les étouffe un peu qu'ils ne peuvent pas exister. C'est-à-dire qu'au fond, la culture se fait, ce que vous appelez la culture, hein, se fait dans l'intimité, dans la recherche, dans la lecture. Heureusement, beaucoup plus de gens lisent aujourd'hui et s'informent plutôt que de tomber dans les leitmotifs généraux.
Hein. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
On termine avec vous parce que vous le valez bien.
Oui, alors moi je suis très narcissique, c'est vrai. Et ce qui m'a calmé, je vais vous dire, c'est parce que je suis passionné de musique. Voilà. C'est pas mon métier, je suis amateur, mais je suis guitariste-chanteur, j'ai fait très sérieusement. Hein. Et donc je me suis produit sur scène, et là c'est là où on voit les gens qui vous aiment, ceux qui vous aiment moins, ce que vous faites. Et quand j'ai vu, par exemple, à la fin d'une prestation, une jeune fille venir vers moi en me disant, vous savez, ça m'a fait du bien parce que franchement, ce que vous chantez, c'est bon, vous le faites avec sincérité et tout. Bon, ça fait plaisir. Et puis d'un autre côté, on se situe, on voit ce qu'on vaut vraiment, et ça calme. Et là, vous dites, bon, bah, j'ai une certaine petite, je suis intéressant. Il y a des gens qui m'aiment, d'autres qui m'aiment moins, et après ça calme. Et franchement, la scène, le public, voir, c'est formidable, quoi.
Pierre, ça s'exprimait comment votre hyper narcissisme avant que vous ayez cette prise de conscience ? Ça s'exprimait comment ?
C'est par exemple de jouer de la guitare devant une glace, de faire des jeux, des trucs de scène, des de et Bon, voilà, et puis d'essayer d'attirer le regard quand on rentre quelque part, de se faire remarquer un peu, ce qui est très désagréable en fait, parce que c'est pas bien de vouloir ne pas être soi-même, de jouer quelque chose qui n'est pas soi-même. Et quand effectivement on fait du théâtre ou n'importe quoi, bon, là on c'est différent. Voilà, ça calme. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr. Merci beaucoup, Pierre, d'être intervenu. Tiens, Noam, t'es encore avec nous autour de la table. Qu'est-ce que t'as envie de dire à tes camarades, ce qu'on a entendu tout à l'heure, hein, dans le reportage d'Antoine Lee? Ce sont pas tes camarades, mais tu en connais des semblables. Qu'est-ce que t'as envie de leur dire, ceux qui, voilà, se mettent en scène, comme ça, sur les réseaux sociaux, de façon un peu effrénée? Qu'est-ce que t'as envie de leur dire?
Il n'y a pas vraiment besoin de se mettre en valeur et tout ça. Il y a quelques personnes, qui s'intéresse à vous, qui vous aime et tout ça, et on peut se satisfaire de ça et pas...
Quelle sagesse,
Mathias Roux, hein, que dire de plus?
Rien, c'est la sagesse qui s'exprime à travers lui.
Ouais. Gérard Bonnet, un mot de conclusion.
Oui, moi je reprendrai simplement le sous-titre de mon livre, hein, qui est « De l'amour de soi à l'amour de l'autre ».
Comment on fait pour passer de l'un à l'autre, tiens?
C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même.
Ouais. Hein, mais quand même, un petit peu.
C'est quand même le ressort. Mais ce ressort, si vraiment on reconnaît en soi des qualités et des possibilités que notre environnement nous a permis de découvrir, on a envie de les partager. Inévitablement. Et c'est cet narcissisme ouvert et positif. Et je crois que c'est une solution, justement, dans le climat actuel, c'est de montrer aux personnes qui se laissent prendre, hein, par cette ambiance, que, voilà, en étant ouvert au niveau culturel, mais aussi au niveau du prochain, de l'autre, de n'importe qui, on est tout à fait sûr d'émerger de ce narcissisme.
Merci beaucoup d'être venu. Je recommande vivement La dictature de l'ego de Mathias Roux, publié chez Larousse. Je recommande également l'indispensable ouvrage de Gérard Bonnet, Le narcissisme de l'amour de soi à l'amour de l'autre. C'est publié chez InPress. Demain, avec Le Parisien Week-end, on s'intéresse à ces plats et desserts d'enfance qui nous font du bien. Faites-nous, partagez avec nous vos saveurs, vos parfums, vos douceurs d'enfance. Dites-nous quelles sont les recettes que vous avez envie de transmettre à vos enfants et petits-enfants. 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la technique ce matin, Élise Christophe et Gilles Gaillard. À suivre, Nagui et sa bande originale.